Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux apprentissages et aux troubles du cerveau et tout particulièrement à la mémoire. Et pour en parler, nous sommes ce soir en compagnie de Francis Eustache, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui dirige une unité INSERM à Caen, unique unité de recherche en France totalement dédiée à l'étude de la mémoire humaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu pour nous parler de votre travail personnel, votre travail collectif, puisque dans les livres que vous avez publiés, c'est souvent une approche pluridisciplinaire qui enrichit la thématique. Dire que vous êtes, j'ai pas envie de dire obsédé, mais enfin disons préoccupé par les multiples aspects de la mémoire. Vous êtes rédacteur en chef d'une revue de neuropsychologie. Vous êtes président de la société de neuropsychologie et vous avez donc une activité, en particulier au centre Cicéron, dont vous nous raconterez un peu comment ça fonctionne, puisque votre point d'ancrage, en dehors de vos préoccupations de réflexion théorique, c'est aussi l'imagerie. Je dirais que vous avez développé pour essayer de cerner justement les aspects de la mémoire. Et puis cette étude que vous menez, en particulier avec Denis Péchanski, sur les mémoires individuelles et les mémoires collectives, surtout après les attentats. Donc il y a de quoi dire, je ne sais pas si on aura le temps, mais on va essayer d'aborder, puisque vous avez écrit plusieurs livres que je conseille très sincèrement à nos auditeurs. La plupart sont publiés chez Le Pommier. Mémoire d'oubli. Et l'oubli que vous avez écrit en 2014, les troubles de la mémoire en 2015, les évolutions de la mémoire en 2016, la mémoire et les autres en 2017, mémoire au futur en 2018, vous vous rappelez de tout ?
J'essaye.
Voilà. Donc, d'abord, pourquoi cette thématique ? Comment vous êtes venu à cette thématique ? C'est pas évident.
Tout d'abord, je suis venu à la neuropsychologie. Grâce à des rencontres avec des personnes qui m'ont impressionné. Je vais citer un Canet, le professeur Bernard le Chevalier, puis je vais citer un Parisien, Jean-Louis Signoret, aujourd'hui disparu à la Salpêtrière, puis beaucoup d'autres. Et donc c'est une discipline qui m'a passionné parce que bon, il y avait à la fois les patients qui souffrent de troubles psychiques, il y avait le cerveau qui était à l'époque encore très très méconnu. Bon, on a fait des progrès depuis, même si ça reste aussi tout un domaine de recherche. Oui. Et puis progressivement la mémoire, parce que c'est une fonction avec un aspect aussi philosophique qui me préoccupait. C'est vrai que je suis obsédé par la mémoire. Il y avait cette dimension-là. C'était à la fois scientifique et puis ça nécessite une réflexion constante. Donc c'est ça, je pense, qui m'a happé.
Alors, d'abord, j'ai envie de dire qu'il y a une difficulté anatomique. Hein, où se situe la mémoire ? Vous avez avancé sur des réseaux, sur des faisceaux, sur des concordances, en tous les cas, qui permettent déjà de voir, surtout par l'imagerie, si j'ai bien compris, de voir s'allumer, comme on dit, quelques zones lorsqu'on fait des tests, justement, de mémoire, cette imagerie. Et puis aussi, c'est plusieurs formes de mémoire. Est-ce que j'aimerais que vous nous expliquiez ces deux aspects ? C'est-à-dire, d'abord, question, où siège la mémoire ?
Alors la mémoire, dans notre cerveau, nous avons des régions privilégiées. Il y a un circuit qui a été décrit au moment de la Deuxième Guerre mondiale par un chercheur américain qui s'appelait Papez. Papez, lui, il était obsédé par les émotions. Vous voyez, chacun son domaine. Et il cherchait tellement le siège des émotions qu'il a décrit un cerveau, qu'il a décrit dans le cerveau un circuit qu'on appelle maintenant le circuit de Papez, qui comprend notamment l'hippocampe. L'hippocampe, les corps mammillaires, le thalamus, c'est un certain noyau de thalamus.
Alors je renvoie nos auditeurs, il faut qu'ils aillent rechercher un petit atlas du cerveau, voilà. Parce que sinon on ne les comprend
rien. Oui, c'est compliqué à la radio, il faudrait un petit schéma. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Papez a décrit en fait le circuit de la mémoire, et quand on lit son article, le mot mémoire ne figure pas. Parce qu'il cherchait tellement le cerveau des émotions, qu'il a décrit le cerveau des émotions, et en fait c'était le cerveau de la mémoire, le principal circuit de la mémoire. Mais bien entendu, la mémoire ce n'est pas que ce circuit, c'est aussi d'autres connexions avec d'autres régions du cerveau, et d'autres connexions avec des régions aussi de notre corps. Parce que notre mémoire, quand j'ai une réaction émotionnelle lors d'un souvenir, je réagis aussi avec tout mon corps, avec mon cœur.
J'ai une batterie, voilà, le cœur qui se met à battre, voilà. Des sudations. Donc,
de plus en plus, on revient à une physiologie de la mémoire, hein, qui comprend bien sûr le cerveau, mais qui comprend aussi d'autres organes et leurs interactions.
Alors, est-il vrai que on a dit que l'hippocampe est un... Enfin, il y en a deux d'abord, hein,
oui, dans chaque hémisphère. Oui, c'est vrai qu'on dit l'hippocampe, mais on a deux fait, hippocampes, deux, bien sûr.
Et que d'autre part, on a vu sa taille grandir ou s'atrophier selon, en particulier, est-il vrai que les taxis anglais ont un hippocampe qui devait apprendre par cœur toutes les rues de Londres, et il y en a beaucoup, c'est une image, quoi.
Notre cerveau est éminemment plastique, donc... Les joueurs de violon, qu'il faut beaucoup travailler leur main gauche, ont une région qui est correspondante de la motricité, qui est plus grosse que quelqu'un qui ne joue pas de violon. Et quelqu'un qui fait beaucoup travailler sa mémoire spatiale, il y a un lien très fort entre mémoire et espace. Et donc les chauffeurs de taxi d'une ville très complexe, qui n'a pas connu Haussmann, très très complexe. Les chauffeurs de taxi, il y a quelques années, hein, maintenant les choses sont un petit peu différentes.
D'abord, il y a le GPS
et tout ça. Donc maintenant, c'est fini, c'est une histoire du passé. Mais c'est des travaux qui ont été remarquablement faits par nos amis de Londres, et notamment une chercheuse qui s'appelle Eleanor Maguire, qui a montré avec toute son équipe que l'hippocampe des chauffeurs de taxi était plus important en volume que l'hippocampe des chauffeurs de bus, qui sont sur leur ligne toute la journée, bon, qui respectent les arrêts certes, mais qui n'ont pas à rechercher sans arrêt dans leur mémoire spatiale la localisation de tel ou tel site pour déposer un client.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut augmenter sa mémoire, puisqu'on voit une augmentation de volume dans certaines circonstances,
on ne fait
au contraire s'appauvrir ?
Si l'histoire est belle, on ne fait que cela, on ne fait que d'améliorer sa mémoire. Quand on vit, quand on a la chance d'être en bonne santé, d'être tourné vers les autres, d'être tourné dans des projets, bah, notre mémoire, elle ne demande qu'à s'améliorer chaque jour en fonction de nos aspirations, de nos buts. Par contre, si on est confronté à une difficulté, un deuil, une rupture existentielle, un décès, un deuil difficile, à ce moment-là... notre mémoire, elle va beaucoup moins bien fonctionner. Ou même une maladie grave qui n'est pas cérébrale. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide des autres, dans ces moments-là. Pour essayer de compenser, pour essayer de redonner un allant.
Vous avez écrit justement mémoire et émotion. Voilà, nous abordons donc ces questions aussi qui sous-tendent peut-être... y a-t-il la possibilité d'une neurogénèse ? On peut faire travailler la mémoire et on peut la visualiser par l'imagerie avec peut-être une augmentation de volume de ces zones qui ne résument pas toute la mémoire, mais en tout cas semble être le carrefour du réseau, quoi, du réseau mémoire.
Tout à fait, l'hippocampe et plus largement le circuit de Papez, c'est un peu le hub, c'est l'endroit indispensable qui va être connecté à toutes sortes d'autres régions, des régions sensorielles, des régions émotionnelles, des régions motrices. Est-ce qu'on peut améliorer cette mémoire, ou en tout cas faire en sorte qu'elle s'amenuise moins? Bon, on pense bien sûr aux effets de l'âge, et puis on pense aussi aux effets des maladies, hein, notamment des maladies dégénératives. Là, il y a aujourd'hui une thématique de recherche très intéressante, qui a démarré en gros avec le millénaire, qui a à peu près une vingtaine d'années. Je serais venu dans votre émission il y a 20 ans, j'aurais pas parlé de ça, parce que c'était pas connu.
Mais vous reviendrez dans 20 ans.
Je reviendrai dans 20 ans. Et là, on aura fait des grands...
ce qu'on va parler.
On aura fait des grands progrès. Et c'est la notion de réserve cognitive. Cognitive, c'est...
Je l'avais noté, hein, pour la partie de l'émission, parce que j'ai lu dans vos livres, effectivement, vous parlez de deux types de réserves, d'ailleurs.
Oui, il y a plusieurs types de réserves. La réserve cérébrale, la réserve cognitive. Mais disons que le principe de tout cela, c'est que... Au fil du temps, au fil de notre vie, un peu comme un écureuil qui amasse ses noisettes, on accumule. On accumule des ressources, des réserves, donc, qui vont nous permettre davantage de faire face. Alors, faire face aux aléas de l'existence, les difficultés de l'existence, par exemple une maladie personnelle, une maladie d'un proche qui va nous affecter beaucoup, mais qui va également nous permettre de lutter contre les effets de l'âge. Bon, les effets de l'âge, ils sont là, mais on va les minimiser, on va les retarder. Et même contre les effets des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Cette piste de recherche, elle a été surtout développée depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, avec des résultats très intéressants, qui viennent de sources très différentes. Il y a des travaux, par exemple, en neurobiologie, qui travaillent avec des animaux, et qui nous montrent que des rats socialisés, qui vivent dans ce que nos amis les neurobiologistes appellent un environnement enrichi, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs dans la cage, ils s'amusent beaucoup, ils ont des jeux, etc. Eh bien, ces rats vieillissent beaucoup mieux. Ils vivent plus longtemps, puis surtout, ils vivent bien beaucoup plus longtemps. Et quand on étudie leur cerveau, on voit qu'ils ont de beaux hippocampes, ils ont beaucoup de connexions, etc. On peut étudier ça de différentes façons.
Mais là, Francis Eustache, peut-être vous insistez sur le côté relationnel de l'être humain. Est-ce qu'il s'enferme, est-ce qu'il se protège, ou est-ce qu'au contraire, il maintient un dialogue avec l'autre?
Oui, parce que ce qui va évidemment nous intéresser beaucoup, c'est quelles sont les sources, en quelque sorte, de cette réserve cognitive. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va développer plus de réserve cognitive qu'un autre? Alors ça, c'est une histoire qui va se produire tout au long de la vie. C'est l'éducation, c'est la culture qui relaye cette éducation, c'est les liens avec les autres, la volonté de partager avec les autres. Bon, ce sont des idées comme ça, mais non, ce sont plus que des idées, parce qu'aujourd'hui, les études épidémiologiques nous montrent que l'incidence des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, c'est la plus étudiée, c'est la plus fréquente, et de ce point de vue aussi, c'est la plus intéressante, parce qu'elle évolue très très lentement, elle évolue pendant des décennies. Si bien que cette réserve va avoir une action pendant des décennies. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on constate, ce sont les épidémiologistes, avec des études extrêmement bien faites sur le plan statistique, qui nous montrent que l'incidence de la maladie d'Alzheimer diminue. Elle diminue dans les pays du Nord, en Amérique du Nord, en France.
Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des messages de prévention, justement, qui ont été donnés, du genre nutrition, activité, justement, rapports sociaux, développés, relationnels?
C'est certainement une des raisons. C'est pas toujours facile de savoir quand cette réserve a commencé à se mettre en place. Un message qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ce changement, ce recul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maladie d'Alzheimer, ça veut dire que cette maladie d'Alzheimer, elle se développe plus tard. Et cet effet est sensible, tout particulièrement chez les femmes. Avant, on ne comprenait pas pourquoi, en corrigeant par l'effet de la pyramide des âges et puis le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais en corrigeant cela, on ne comprenait pas pourquoi il y avait plus de femmes qui étaient victimes de la maladie d'Alzheimer que d'hommes. Et une des raisons qui a été avancée, alors c'est pas forcément la seule, et c'est un sujet évidemment éminemment complexe, mais une des raisons, c'est que les femmes qui ont l'âge aujourd'hui de développer la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qui ont entre 75 et 85 ans, pour les formes les plus fréquentes, eh bien, ce sont les premières petites filles qui ont vraiment accédé à l'éducation et à la culture qui s'ensuit. Parce que l'école était certes obligatoire dans notre belle France et dans d'autres pays un peu similaires, mais en fait, c'était beaucoup plus les petits garçons que les petites filles qui allaient à l'école. Les petites filles restaient à la maison et s'occupaient de la fratrie parce que c'était comme ça. Et ce n'est qu'un petit peu plus tard, notamment avec la guerre de 14, la guerre de 14 a eu un effet sociologique extrêmement important, c'est-à-dire que c'est un moment où les femmes ont été mises en avant, enfin, se sont mises en avant, et ont accédé à ce moment-là à l'éducation, elles sont allées à l'école, elles ont remplacé les hommes, et puis elles ont accédé à des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, mais qui leur ont permis d'avoir ces interactions sociales extrêmement fortes. Et donc c'est pas un effet direct de l'éducation, mais c'est un effet à la fois direct et indirect qui va entraîner cette réserve cognitive et ce recul de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Comme quoi, le monde de la mémoire, c'est un monde extrêmement complexe.
En vous lisant, on baigne dans la complexité et aussi dans l'éclairage, parce que vous décortiquez quand même pas mal de choses, et en particulier les différents types de mémoire. Parce qu'il n'y a pas qu'une mémoire, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Effectivement, il n'y a pas une mémoire. Déjà, les grands philosophes de l'Antiquité, et puis plus proches de nous, comme Bergson, comme Husserl, avaient, avaient insisté sur ces points-là et l'ont décrit de façon magistrale. Alors, on a d'abord une mémoire relativement automatique, même si on doit souffrir pour former ces automatismes. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est les us et coutumes, c'est le fait d'automatiser des procédures. Conduire une voiture, par exemple, on réfléchit pas pour conduire la voiture, on conduit la voiture. Pourtant, ça a été difficile d'apprendre. Et donc, c'est très économique. Notre cerveau est très économe. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'on puisse réaliser des tâches routinisées, en quelque sorte, tout en se livrant à des exercices plus complexes. Donc c'est vrai qu'en conduisant une voiture, on peut parler, on peut penser, on peut discuter avec son voisin de choses complexes, de l'actualité, etc. Donc il y a des mémoires comme ça, comme la mémoire procédurale, comme des mémoires aussi perceptives. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images dans notre esprit qui nous permettent, par exemple, de nous orienter. On conduit la voiture et on s'oriente, parce que toutes ces images, elles sont emmagasinées dans notre cerveau. C'est une mémoire tout de même relativement plastique qui fait qu'on va s'orienter même s'il y a du brouillard, même s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a trop de soleil, etc. Donc on a toutes ces mémoires un peu rudimentaires, en fait, elles sont extrêmement complexes.
C'est aussi les neurones du lieu. Hein,
oui, tout à fait.
De se retrouver.
Tout à fait. Ce que prix Nobel, c'était en 2015. Donc John O'Keefe à Londres, qui a bien montré ces cellules spécialisées. Puis après, on monte dans la hiérarchie des mémoires et on a des mémoires qui nous permettent, ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui nous permettent de gérer, disons, le présent psychologique, qui nous permettent de rassembler les informations nécessaires pour arriver à faire une action précise dans un temps court. Et puis, il y a deux formes de mémoire qui sont peut-être les plus élaborées, les plus complexes. Alors l'une que l'on appelle la mémoire sémantique, c'est toutes les connaissances que l'on rassemble.
C'est l'encyclopédie, quoi.
C'est l'encyclopédie. Sur le monde et sur soi. C'est tout ce que je sais, c'est ce que je sais sans vous livrer de souvenirs personnels. C'est tout ce que je sais. Alors qui se modifie parce que il y a 10 ans je savais des choses, aujourd'hui j'en sais d'autres, j'en ai oublié avec plein de guillemets à l'oubli. C'est ça, la mémoire sémantique, c'est extraordinaire, parce qu'en fonction de mes intérêts, eh bien, je vais la renseigner. Et puis, il y a d'autres aspects de ma mémoire qui vont passer un peu à l'arrière-plan. C'est en cela que c'est à la fois encyclopédique, je pense que c'est un terme, bien sûr, que je retiens, mais en même temps, c'est une encyclopédie éminemment dynamique, parce qu'elle va s'adapter à mes préoccupations du moment. Et peut-être qu'il y a 10 ans, je vivais dans un autre pays, j'avais une vie très différente, je faisais un métier un peu différent, vous voyez. Donc ma mémoire sémantique, elle va être différente d'il y a 10 ans. Et puis, alors la mémoire peut-être la plus sophistiquée, celle qui nous intéresse beaucoup, qui nous préoccupe, hein, parce qu'on est toujours un peu soucieux de son bon fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui me permet de voyager dans le temps, dans l'espace, qui me permet de récupérer des souvenirs, ce qui est quand même fantastique, quoi. Récupérer des souvenirs, y compris de personnes qui n'existent plus.
Voilà, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a une espèce de sélection qui se fait entre je récupère ou j'oublie. Donc vous êtes sur cette mémoire...
Mémoire épisodique.
Épisodique. Vous abordez aussi dans un autre de vos livres la mémoire du futur, ce qui est aussi un peu...
Qui est un pan de la mémoire épisodique. C'est un peu un oxymore, mais en fait, ma mémoire, ce matin, quand je me suis réveillé dans ma petite ville au bord de la mer et que j'avais ce rendez-vous avec vous ce soir, c'était ma préoccupation de la journée. Ma mémoire, elle était tournée vers cette émission. Ma mémoire, elle n'était pas tournée sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ce qui me préoccupait, c'était ce qu'allait se passer aujourd'hui. Il fallait que je vienne à Paris, que je fasse différentes choses, etc. Et la mémoire, c'est beaucoup ça. C'est cette capacité, en fonction du présent, de voyager dans le temps. Mais ce temps, il est à la fois futur et passé. Parce que, bien évidemment, pour alimenter ce futur, je vais avoir recours aussi à mon passé. Et c'est ce qui me permet aussi de communiquer avec les autres. La mémoire, elle a cette fonction-là. Je communique parce que j'ai une mémoire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à échanger, j'ai des choses à partager. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en communiquant avec quelqu'un d'autre, en partageant, eh bien, je vais stimuler ma mémoire, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas des exercices stériles que je vais faire, c'est au contraire, c'est partager, c'est interagir avec l'autre qui n'est pas forcément d'accord avec moi. Voyez. C'est comme ça que ma mémoire va vraiment progresser.
Comment se fait-il qu'il n'y a pas de mémoire avant 2-3 ans ? L'âge de 2-3 ans ?
Avant l'âge de 2-3 ans, en fait, il y a une mémoire fantastique qui se met en place. C'est-à-dire que d'un tout petit que vous connaissez bien, d'un tout petit, en 2-3 ans, on arrive à un tout grand qui a déjà compris plein de choses. Qui a compris comment fonctionne le monde, les interactions avec les autres, comment...
Mais est-ce qu'il va s'en souvenir ?
Alors, il va apprendre tout ça. Il va apprendre le langage, parce qu'il faut, au moins prononcer le mot une fois, le mot langage dans une émission sur la mémoire, parce que c'est une fonction qui n'est pas totalement inutile. Et certes, toutes ces acquisitions se font en dehors de la mémoire épisodique. Donc, nous apprenons beaucoup sans mémoire. Alors, c'est un peu caricatural. Hein, ce que
oui, mais ça permet un peu de nous situer quand même.
Mais ça explique l'amnésie infantile, que terme décrit par Freud, en s'appuyant d'ailleurs sur une étude très très bien faite, qui avait été faite à Paris par un couple de chercheurs. Et donc, amnésie infantile, pourquoi ? Parce que nous avons pratiquement aucun souvenir de notre enfance, de notre toute petite enfance, et même jusqu'à l'âge
celle
de 5-6 ans.
Celle qu'on raconte et qu'on reprend.
Voilà, alors ça, c'est le roman familial, c'est ce qui nous rassemble. C'est-à-dire quand on se retrouve en famille, par exemple à Noël ou entre amis, c'est des choses qu'on raconte, parce qu'il faut les raconter, parce que c'est ce qui soude notre groupe, que ce soit le groupe familial ou le groupe d'amis. Mais est-ce qu'on se souvient vraiment de cette anecdote ? Est-ce qu'elle a dû être transformée en jolivet 10 fois ?
Alors, est-ce que les hypermnésiques, ceux qui ont vraiment jusqu'au trompe-l'œil, hein, puisqu'il y a même quelques personnes qui n'arrivent pas à oublier et qui emmagasinent tout, est-ce que les hypermnésiques, eux, se rappellent de la toute petite enfance ou est-ce que ça commence aussi comme tout le monde ?
Non, il y a différentes formes d'hypermnésie. Il y a les hypermnésies un peu de music hall. Ce sont des gens qui apprennent. Hein. Ce sont des gens qui se donnent pour objectif d'apprendre des choses par cœur, etc., avec des moyens mnémotechniques, etc. Ça c'est un peu l'hypermnésique de théâtre, qui fait de la mémoire son métier. Et puis, il y a les...
Tu les 40 000 chiffres après
voilà,
le,
par exemple.
Le fameux
pi. Voilà. Donc il faut être motivé quoi, pour faire ça. Hein. Donc, mais c'est un exercice, il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça, donc c'est très bien. Et puis il y a la véritable hypermnésie autobiographique, qui est en fait quelque chose de très rare. C'est très très rare. La première observation avait été décrite par Luria, qui est un grand neuropsychologue soviétique. Et puis, il y a une autre observation qui a été documentée un peu plus récemment, il y a à peu près 15-20 ans, par un chercheur américain, qui s'appelle John McGough. C'est une histoire un peu singulière parce qu'il a reçu une lettre. D'ailleurs, l'article scientifique commence comme cela. Il reçoit la lettre d'une femme qui lui décrit sa pathologie, qui est, a priori, de se souvenir d'énormément de choses.
C'est aussi le personnage d'un roman de Borges.
Oui, hein, de Borges.
Qui est funeste ou la mémoire incapable d'oublier. Ouais.
Alors là, c'est un roman hein, pour Borges. Ouais. Mais pour la patiente qui est décrite par McGough, c'est une femme en fait qui a des troubles de mémoire. Et elle se rend compte qu'elle a des troubles de mémoire. Et pour compenser ces troubles de mémoire, elle s'oblige à retenir 3 éléments par jour. C'est-à-dire que, par exemple, la journée d'hier, mais il y a eu une tempête dans le nord de la France, il y a eu un accident d'avion très grave, et puis l'équipe de rugby a encore perdu. Ça c'est pas vraiment un grand souvenir, parce que ça devient banal.
Chronique.
Donc, vous voyez, 3 éléments. 3 éléments, et tous les jours, elle fait comme ça.
Mais est-ce qu'elle fait, elle remonte à une semaine
Oui.
Ou c'est tous les jours
Tous les jours.
Oui, mais elle va se rappeler des précédents.
Alors, elle se rappelle des précédents.
D'accord.
Justement, elle s'en rappelle. Et donc, si vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 2004, elle vous dit tout de suite les 3 éléments. Ce qui est très impressionnant.
Alors, un peu de musique dont on va se souvenir longtemps, bien entendu, compte tenu de votre choix.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Ils ne sont pas encore amis, des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohèmes. Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins blêmes. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent engagés. Ils ne sont pas encore inscrits, ni au chômage, ni au congé. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs.
Voilà, les cœurs purs. Jean-Roger Caussimon, que notre invité Francis Eustache a choisi. Et cette émission, donc, autour des troubles du cerveau se poursuit en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous avons abordé les hypermnésies, enfin légèrement, parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais qu'on dise un mot maintenant sur les amnésies, la façon de ne pas se souvenir, en sachant qu'il y en a plusieurs types, là aussi, d'amnésie, les entérogrades, les rétrogrades. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Oui, il y a beaucoup de formes d'amnésie. L'amnésie, c'est un terme un peu générique, bon, qui souligne un trouble de mémoire.
Amnésia, c'est les grandes bottes de nuit, là. Amnésia, voilà. Hein, on oublie tout.
Voilà, on oublie, et c'est au-delà, évidemment, des petits troubles de mémoire que l'on a tous dans la vie quotidienne. Alors, ça correspond à des maladies très différentes. On pense à la maladie d'Alzheimer, qui commence par des troubles de mémoire, et puis qui va évoluer avec d'autres troubles cognitifs, qui est une maladie dégénérative. Mais il existe d'autres formes d'amnésie qui correspondent à des étiologies très diverses. Alors la première grande maladie de la mémoire qui a été décrite à la fin du 19e siècle par un neuropsychiatre russe, c'est le syndrome de Korsakoff. Le syndrome de Korsakoff, c'est le syndrome amnésique par excellence, si on peut dire, qui est lié à des abus prolongés d'alcool, et en l'occurrence ici des abus de vodka. Et donc le syndrome amnésique a été décrit par Sergueï Korsakov chez de grands buveurs de vodka, donc qui présente effectivement une double amnésie, une amnésie entérograde, c'est l'incapacité à former des nouveaux souvenirs, ou de la difficulté en tout cas à former des nouveaux souvenirs, et puis une amnésie rétrograde, hein, dite rétrograde parce qu'elle atteint les souvenirs qui avaient pourtant été formés avant l'apparition de la maladie. Donc dans un syndrome amnésique, on a généralement ces deux facettes, entérograde et rétrograde.
Et vous avez pu voir en imagerie cérébrale que ça touchait des territoires un peu différents.
Oui, alors le cœur hein, de ces syndromes, on revient toujours au circuit de Papez qu'on évoquait dans la première partie de l'émission. Alors c'est pas forcément l'hippocampe dans le syndrome de Korsakoff, c'est plus des noyaux du thalamus qui sont touchés par, en fait, une avitaminose. C'est-à-dire que l'abus d'alcool entraîne des lésions du foie et par conséquence, en quelque sorte, une avitaminose B1, B6, B1, B12 oui. du cerveau. Alors ça, c'est le syndrome de Korsakoff. Mais il y a aussi d'autres histoires qui conduisent à des syndromes amnésiques. Il y a des traumatismes, cette fois au sens traumatisme crânien, qui entraîne, crânio-cérébral, qui entraîne ce type de syndrome. Puis il y a aussi des patients qui ont développé des épilepsies très graves et qui étaient soignés par des neurochirurgiens qui faisaient des hippocampectomies, dont un patient qui est devenu célèbre, qui s'appelle HM. Voilà, HM, et on peut retrouver sur le site HM, on connaît maintenant son nom, Henri Molaison, toute l'histoire d'Hachem qui nous a permis de montrer justement...
Qui est décédé en 2008.
Hein. En 2008, voilà. Et qui nous a permis de montrer que Hachem avait perdu la mémoire épisodique, mais il avait conservé d'autres formes de mémoire. Et il était capable d'apprentissage si on ne passait pas par la mémoire épisodique.
Et on différencie ça, bien sûr, du trou de mémoire, du tract.
Alors, c'est très différent du trou de mémoire qui est du trac, effectivement. L'anxiété va avoir des effets. La grande peur des personnes qui montent sur scène, hein, c'est d'avoir ce trou de mémoire qu'on peut pas maîtriser. Mais c'est évidemment très, très différent.
Mais alors, par rapport à, justement, ces émotions, donc de la peur qui parfois bloque, parfois, au contraire, booste, on va dire, la mémoire, parce que dans un de vos livres, toujours en pluridisciplinaire, Francis Eustache, vous parlez de mémoire et d'émotion et vous insistez sur le fait que la situation émotionnelle peut entraîner une meilleure mémorisation.
De façon générale, c'est le cas. Quand nous vivons un épisode de notre vie dont on pressent qu'il est marquant, qu'il aura des conséquences sur notre vie, que ce soit positif ou négatif, une rencontre importante, en quelque sorte, les structures cérébrales qui sont impliquées dans les émotions, il y en a une qui est très importante, c'est l'amande du cerveau, l'amygdale. C'est pas l'amygdale qu'on a ici dans la gorge, c'est l'amande du cerveau. À ce moment-là, l'amande du cerveau qui est juste à côté des hippocampes. En fait, l'amande du cerveau va dire aux hippocampes, ça il faut prendre, ça c'est très important, il faut garder ça en mémoire. Donc de façon générale, plus d'émotions, c'est plus de mémoire, jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à un certain seuil, si l'émotion est trop importante, si on est confronté par exemple à un événement qui est beaucoup trop fort à surmonter, une agression par exemple, un viol, est témoin d'une situation comme ça et on est désarmé, on peut pas lutter contre cette situation-là, à ce moment-là on peut être envahi par une émotion extrême qui va perturber la mémoire. Donc l'émotion elle est généralement, quand la situation est acceptable on va dire, généralement elle est positive, elle est quasiment corrélée à la mémoire, à la puissance de la mémoire qui s'ensuit. Par contre, arrivé à un certain seuil, eh bien, cette émotion, elle a un effet déstructurant.
Est-ce que c'est ça, le stress post-traumatique ?
Alors, ça peut entraîner ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'une personne qui est confrontée à un épisode comme ça, extrêmement difficile, va avoir ce qu'on appelle un stress aigu. C'est normal, en quelque sorte, de réagir ainsi, parce que cette situation était terrible. Et puis ensuite, dans nos critères, on a besoin de critères pour faire des recherches. Eh bien, dans les critères qui sont admis par la communauté scientifique aujourd'hui, on considère que si les difficultés, si les troubles persistent au-delà d'un mois, on va parler de troubles de stress post-traumatique, qui se manifestent de différentes façons, mais c'est avant tout une distorsion de la mémoire avec des éléments mnésiques.
Distorsion dans quel sens ?
Alors, dans deux sens. C'est premièrement des éléments de la scène traumatique qui vont réapparaître à la conscience de la personne.
Des intrusions
permanentes. Des intrusions. C'est ce qu'on appelle les intrusions. Mmh. On appelle aussi le syndrome de reviviscence. C'est-à-dire que la personne revoit des éléments. Mais attention, ce n'est pas comme dans un souvenir. C'est-à-dire que quand on évoque des souvenirs, bon, on se rappelle du contexte du souvenir et puis on sait que c'est un souvenir. Ce que j'ai fait samedi soir, je me souviens ce que j'ai fait samedi soir dernier, mais je sais que c'est un souvenir, même si je me revois dans la scène. Alors que là, ce sont les éléments qui s'imposent à la personne, et ils s'imposent à la personne au présent. Ce qui change tout, vous voyez, par rapport à un souvenir. C'est-à-dire que la personne...
Revit.
Et revit vraiment dans le sens où elle est à nouveau dans la scène. Et sans pouvoir maîtriser cette scène. Et sans le contexte qui va avec cette scène. Ce sont des éléments très vivides, très, très sensoriels, très émotionnels, mais qui sont décontextualisés. Si bien que ce souvenir n'en est pas un, parce qu'un vrai souvenir, il va évoluer au fil du temps, le contexte lui servant un peu de véhicule, disons que pour s'immiscer dans l'ensemble de sa mémoire. Alors que le souvenir traumatique, il a un statut complètement différent. Il est en dehors de tout ça. Et donc, il s'impose à la personne, il se répète. Et la personne fait tout pour essayer de l'éviter, plus ou moins avec efficacité. Ça devient, si ce syndrome d'évitement devient aussi omniprésent, ça devient à nouveau un symptôme. Donc on a cette dualité de symptômes
Intrusion d'une part.
C'est le renfermement possible.
Parce que la personne va construire une véritable carapace autour de lui, ce qui va l'empêcher, par exemple, de prendre des moyens de transport, d'interagir avec d'autres, d'aller dans les salles de cinéma, de spectacle, etc.
Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose et qui vont manifester un trouble de stress post-traumatique et d'autres pas?
C'est la question. C'est une question.
Oui,
c'est une question. Vous me posez une question que je me pose tous les jours ou presque, parce que c'est une grande question. C'est une grande question et j'espère que dans les années qui viennent, nous aurons des réponses tangibles, scientifiques
Comment
à la question que vous posez.
Par des études d'imagerie, par des études de l'histoire, par la résilience, comme diraient certains.
Comme dirait Boris Cyrulnik,
qui a
popularisé ce terme dans notre pays, et c'est bien. On a besoin de tout ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'études pluridisciplinaires qui prennent en compte des aspects, bien sûr, génétiques, épigénétiques, qui utilisent l'imagerie cérébrale. Le trouble de stress post-traumatique, c'est une psychopathologie. C'est une psychopathologie très particulière parce qu'elle touche un individu qui allait bien et qui, parce que cette personne rencontre un événement très particulier, va développer un trouble. Donc on a besoin de comprendre des mécanismes cérébraux qui sont à l'origine soit du trouble, soit de la résilience. Mais on sait que ce trouble qui s'enquiste, ou au contraire, cette résilience, elle est très liée à l'environnement de la personne. L'environnement, c'est...
L'environnement actuel ou l'environnement passé ?
L'environnement passé, son anamnèse, ce qu'elle a vécu dans le passé, ça c'est très important.
Son lien avec ce qu'on pourrait appeler la sécurité.
Oui, la sécurité de son environnement.
De maternelle.
Mais ça, on ne va pas le refaire. La personne qui est victime d'un tel événement, ce qui va être extrêmement important de comprendre, c'est comment cette personne doit être entourée, le souligner, par ses proches, évidemment, par sa famille, par ses cercles d'amis, sa vie professionnelle, et puis aussi, quand il s'agit, disons, soit d'un événement collectif, soit d'un événement qui est repris par la société, comment la société répond à la personne sur son propre statut. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est la rencontre des mémoires individuelles, parce que c'est bien sûr un individu qui souffre, mais c'est aussi la rencontre avec la mémoire collective. Et comment l'une renseigne l'autre.
Et il est vrai qu'il y a eu des grands événements récents, il y en a eu pas mal dans toute l'histoire, mais la guerre du Vietnam, l'histoire du 11 septembre en particulier, a été un grand traumatisme, un stress post-traumatique pour beaucoup de gens. Et puis vous vous êtes attelé à la période de 2015, novembre 2015, des attentats qu'il y a eu à Paris, et vous avez, avec Denis Péchanski en particulier, monté toute une étude qui est quand même assez remarquable, puisqu'elle va s'étaler sur 10 ans, jusqu'en 2026, où vous avez j'ai cru lire, contredisez-moi si c'est faux, 360 personnes qui ont été proches de ces attentats et qui ont accepté d'être interviewées ou d'être filmées ou d'être radiographiées, enfin je veux dire, par l'imagerie. Et donc c'est une matière effectivement importante de l'individu, comment il se situe dans un événement que tout le monde a vécu, mais avec des histoires différentes. C'est là votre base de travail actuelle ?
Alors c'est un programme, donc un programme qui s'appelle Mémoire 13 novembre, et j'invite les auditeurs à aller visiter le site de ce programme de recherche, parce qu'on ne pourra pas tout développer ce soir. Alors, bon, Denis Péchanski, c'est un historien.
Ouais.
De la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous sommes rencontrés à Caen parce que il est président du conseil scientifique du musée mémorial de Caen. Et moi, je travaille à Caen. On s'est rencontrés et on a commencé à travailler sur mémoire individuelle, mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous avons travaillé avec un collègue américain, qui s'appelle William Hurst, sur le 11 septembre américain. Donc, vous voyez, on se rapprochait un petit peu de nous ici, de la période que l'on vit. Et puis, il y a eu ces attentats de 2015. Du janvier 2015, et puis il y a eu le 13 novembre 2015. Et là, avec le soutien d'un grand nombre d'institutions, notamment l'INSERM et le CNRS, et puis un soutien aussi politique très, très appuyé, nous avons pu lancer une grande étude, une très grande étude, qui, je pense, est une première mondiale, et qui permet de suivre toute une cohorte de personnes. Alors il y a les personnes qui étaient au plus près du Bataclan ou des terrasses ou du Stade de France, mais il y a des personnes qui étaient beaucoup plus loin. Et il y a en tout 1000 personnes qui sont suivies comme ça pendant 10 ans. Nous les avons vues une première fois en 2016, nous les avons revues en 2018 et nous les reverrons encore deux fois ultérieurement. Parmi ces 1000 personnes, il y en a 200 qui sont suivies à Caen dans mon laboratoire, et qui bénéficient d'examens très sophistiqués sur le plan neuropsychiatrique, neuropsychologique, et également en imagerie cérébrale, au centre Cicéron que vous avez évoqué au tout début de l'émission. Donc, grâce à ces examens, eh bien, nous essayons de comprendre les mécanismes qui permettent de contrôler la mémoire. Pourquoi certaines personnes qui ont vécu pourtant le même événement terrible, eh bien, certaines personnes vont réussir à contrôler ces intrusions, et puis d'autres restent en fait victimes de ces intrusions. Quels sont les mécanismes cérébraux qui conduisent soit à ce contrôle, soit à ce non-contrôle, et quels sont les différents éléments que l'on va repérer dans la vie de ces personnes, autour d'elles, qui permettent de mettre sur la voie de la résilience. Donc je pense qu'effectivement, c'est une étude qui est très importante, qui donnera, j'espère, des éléments de réponse à la question que vous posez, qui est absolument fondamentale, donc qui est une question qui se pose pour les victimes des attentats, mais qui se pose aussi dans d'autres situations dramatiques. En temps de guerre, on pense bien sûr au viol et aux incestes familiaux et toutes ces situations terribles. Et il faut qu'on progresse dans la connaissance de cette pathologie qui a été longtemps une pathologie délaissée. C'est-à-dire que quand on pensait maladie de la mémoire, on ne pensait pas troubles de stress post-traumatique, alors que c'est une pathologie relativement fréquente.
Et là, c'est vrai que dans la multiplicité des livres que vous avez écrits autour de la mémoire, il y a aussi mémoire et oubli qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut oublier, ou en tous les cas éloigner, peut-être pas définitivement, mais pas que certains peuvent oublier complètement, certaines choses traumatisantes pour se préserver. Donc c'est tout un jeu, qu'est-ce qui trie le souvenir pour le mettre dans la poche réserve, ou bien au contraire le faire vivre et fructifier, quitte à en faire un espèce de porte-drapeau, aussi des fois à l'excès.
C'est vrai que le mot « oubli de prime abord a plutôt mauvaise presse, parce qu'on pense aux petits oublis de la vie quotidienne qui nous agace, hein, on va dire cela. En fait, l'oubli, c'est le partenaire de la mémoire. In fine, c'est ce qui nous permet de faire le tri, comme vous le dites, de sélectionner. Alors, ce qui est compliqué, c'est que cette sélection, elle est à la fois consciente et non consciente. C'est-à-dire que je vais faire, dans certains cas, un effort délibéré de mémoire, mais dans beaucoup de situations, en fait, ma mémoire, c'est mon complice. Mais elle travaille avec moi sans que j'y prenne garde, en quelque sorte.
J'ai beaucoup aimé dans votre livre les études que vous avez faites en imagerie, où vous montrez qu'un mot qui a une couleur, ça veut dire qu'il faut essayer de le refouler, ouais, ou de l'oublier. Par contre, le même mot avec une autre couleur, on va le faire fructifier. Ouais. Et que vous examinez les différents circuits, hein, parce que tout est un problème de circuit.
Et ça marche plutôt bien.
Et ça marche plutôt bien. Voilà, ça marche très très bien. On va essayer de s'en souvenir. Je renvoie les auditeurs, en tous les cas, que cela passionne, et je n'en douterai pas, sur les livres que vous avez publiés donc au Pommier, Mémoire au futur, Mémoire et émotion, Mémoire et oubli, Les troubles de la mémoire, prévenir et accompagner, parce qu'il y a tout le problème médical et la recherche qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Voilà, c'est absolument passionnant. Mais si vous avez un trouble de la mémoire, vous pouvez réécouter cette émission par internet, et nous n'avons pas parlé des tablettes et autres substituts de la mémoire. Néanmoins, vous pouvez aller sur franceculture.fr et écouter autant que vous le souhaitez pour vous inscrire pour le podcast et écouter à la carte cette émission, laquelle a été rendue possible grâce à la participation de Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Joséphine Lampréa et Anthony Thomasson. Voilà, demain, nous retrouvons Serge Perrault pour parler de la, ou des, plutôt au pluriel, des douleurs.